écologique est catastrophique.
Mais non,
donc
parce
ils obtiennent
que
le contraire de ce qu'ils souhaitaient.
Mais non, voilà. Parce qu'en fait, c'est des progressions, ça se fait pas en deux ans.
Ah si non, vous non, voulez. Mais là, ça fait.
C'est progressif. Moi, mes parents, ils viennent seulement maintenant d'abandonner leur voiture. Et de dire, bon, bah c'est bon, ça m'a saoulé, je me déplace à vélo.
Qui vont pas aller bosser en vélo, désolé.
Eh bien oui, mais vous savez, il y a plein de gens, il y a des débats sur ce sujet.
Il y a encore des prolétaires qui prennent leur voiture.
Mais bien sûr, mais il y a plein de débats sur ce sujet, de pourquoi pas justement simplifier les trajets en voiture pour ces personnes-là qui ont soit un handicap, soit
faire une soie, les artisans.
Non, mais eux qui auront un espèce de permis spécial.
Qu'on le mette en place.
Oui, il faut le mettre en place, je suis d'accord. Je dis pas que la politique est parfaite.
Pas sous son même sens. Du tout. La politique de la mairie de Paris, c'est pas ça du tout. Il y a peut-être des débats ailleurs, mais là, actuellement, la mairie de Paris, c'est pourrir la vie de tous les gens qui ont un véhicule, y compris les ambulances, les pompiers, les artisans.
Alors, je voudrais qu'on prenne Damien, en ligne, qui nous appelle de Margaux-Cantenac, en Gironde, et qui est chef d'entreprise. Bonjour Damien.
Bonjour Estelle.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors, à Bordeaux, c'est pas le périph', c'est la rocade. Est-ce que vous seriez favorable à une rocade à 50 km/h?
Gardez les idées d'Hidalgo pour Hidalgo. Pas chez nous, foutez-nous la paix. Déjà, la rocade a été à 110 avant.
Ouais, moi, je l'ai connu à 110 quand je faisais mes études à Bordeaux.
Ouais. Et on nous l'a passé à 90, soi-disant pour un test d'écologie. On n'a jamais eu le résultat du test et on nous a laissé la rocade à 90.
Ah ouais, comme d'hab. Il y a bien eu des études d'impact qui ont été faites quand même, Damien.
Oui, mais qui n'ont pas été rendues pleinement publiques comme les gens l'auraient souhaité, en fait.
Oui, mais aujourd'hui, Damien.
On nous a pas posé la question. On a passé la rocade entre-temps à 3 voies et ça aurait pu rester à 110.
Mais aujourd'hui, 90, c'est pas très gênant quand même, Damien.
Ah non, 90, c'est très bien.
Et bah alors.
Les idées d'Hidalgo chez Hidalgo.
Oui, j'entends, mais regardez, vous êtes passé de 110 à 90. Au début, vous avez un peu râlé et finalement, c'est bien passé. Bon, alors, peut-être que chez vous...
Vu qu'on sait où sont les radars, tout le monde roule sur la rocade à 110.
Ah oui, mais évidemment, c'est embêtant, c'est comme sur le périph', quoi.
Puisque les radars sont signalés. Il faudrait arrêter de signaler les radars. Là, on s'amuserait.
Là, c'est un autre débat, ça s'amuserait.
C'est des radars de chantier qui sont bougés une fois par mois.
Mobiles, c'est des radars mobiles.
Et tous les mois, on sait où ils sont.
Oui, donc évidemment, ça n'encourage pas à respecter les limites de vitesse, même s'il faut respecter les limites.
Là, le périph' est à 70.
Oui.
Quand on a la vraie moyenne à laquelle, sauf par encombrement.
Je crois que c'est 36.
Oui, sauf que quand il y a pas d'encombrement, je peux vous dire, il y a des gens qui passent largement les 70.
Mais en vrai, c'est compliqué. C'est compliqué quand t'es tout seul sur la route d'être à 70. Donc tu mets ton limiteur de vitesse parce que sinon c'est quasi impossible. Alors 50, effectivement, là, on y arrive en ville, mais c'est vrai que sur une trois voies, ça paraît plus compliqué. Rémi, ça s'enflamme sur l'appli RMC, je te vois très attentif. Alors,
d'après ce que dit l'adjoint au maire dont je parlais tout à l'heure à la mobilité à Paris, la vitesse actuelle sur le périphérique, ce serait un peu plus de 40 km par heure en moyenne.
Oui.
En moyenne. Et apparemment, c'était 32,6 km par heure en 2013, donc ça sera amélioré.
Voilà, donc
surtout quand on est à l'arrêt,
sauf que c'est une moyenne et que ce qui va être horripilant, c'est d'être obligé de faire 50 quand vous êtes le soir et que c'est désert. Enfin.
Alors, notre invité sur ce débat, c'est Pierre Lagache. Pierre Lagache, c'est le vice-président de la Ligue contre les violences routières. Et il est avec nous aujourd'hui. Bonjour Pierre Lagache.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que ce serait une bonne idée pour améliorer la sécurité routière de passer tous les périphes et toutes les rocades de France à 50 km/h?
Bah, déjà, regardons le cas parisien, hein, parce qu'on a déjà eu ce débat quand on est passé de 80 km/h à 70 km/h en 2014. On avait les mêmes arguments qui s'opposaient. Qu'est-ce qu'on en a tiré comme conclusion? On a eu finalement des temps de déplacement qui ont diminué grâce à des vitesses moyennes qui ont, elles, augmenté grâce à la diminution de la vitesse autorisée. Donc on voit bien qu'on est sur un sujet un peu compliqué où il peut y avoir une idée reçue qui consiste à considérer que parce que la vitesse autorisée baisse, on a des temps de déplacement qui baissent. Mais le bouchon, c'est une dynamique quand même assez complexe. Et de temps en temps, c'est ce que font d'ailleurs les Allemands depuis très longtemps, ils ont des limitations autorisées qui baissent quand le trafic augmente et ça permet de fluidifier, donc de gagner du temps. Donc il faut être assez prudent sur les prises de position et les analyses parce que le sujet est quand même compliqué. Et puis il n'y a pas que l'aspect temps déplacement, on a aussi l'impact sur la pollution. Alors je voudrais quand même rectifier une information fausse qui a été dite tout à l'heure, c'est que le 30 km/h pollue plus que le 50. Alors c'est vrai en laboratoire, sauf que ce qui est observé sur le terrain, c'est le contraire, c'est-à-dire que le 50 pollue plus que le 30 km/h pour une raison simple, c'est que quand vous roulez à 30 km/h, il y a moins d'à-coups. Et en fait, c'est le phénomène des accélérations qui pollue beaucoup. Donc, c'est pas tant la vitesse que l'accélération.
Moi, j'ai pas dit ça. En cas de fluidité du trafic, vous avez raison. En cas de fluidité du trafic, c'est vrai. Mais comme 30 km/h ne facilite pas la fluidité du trafic, ça crée un accordéon qui compense la pollution par une augmentation de la pollution.
Mais concrètement.
Bah, le 30 km/h peut faciliter
en fluide, il n'y a pas de problème.
Trafic à certains moments.
Ah oui, oui, ah bah, sinon, il n'y a personne.
Voilà, non, mais, pas nécessairement.
Par ailleurs, on parlait du 50 par rapport au 70.
Il y a du monde.
Mais Pierre Lagache, est-ce qu'en termes de sécurité routière, voilà, on sait que les chiffres sont très mauvais, par exemple pour le mois dernier. Est-ce qu'en termes de sécurité routière, par exemple, le fait de passer à 50 plutôt que 70, ça abaisserait le nombre d'accidents?
Bah, on l'a observé quand on est passé de 80 à 70, et voilà, très très régulièrement, on observe quand même qu'il y a un lien entre la vitesse et l'accident, notamment sur le périphérique. Je rappelle que les deux roues motorisées paient un lourd tribut à la sécurité routière. Les chiffres de ce dernier mois d'avril le montrent. Et effectivement, un choc avec 20 km/h de différence entre une voiture et une moto, c'est pas du tout le même résultat. Donc, il y a fort à parier, bien évidemment, que si les vitesses moyennes diminuent, on aura moins d'accidents graves sur le périphérique. Ça, c'est quasiment une certitude. Mais les objectifs sont plus globaux, vous l'avez bien compris.
Alors, Jonathan est avec nous, nous appelle de Paris. Tiens, justement, un Parisien. Jonathan qui est dans l'enseignement privé. Bonjour, Jonathan.
Oui, bonjour.
Jonathan, vous avez une voiture?
Oui.
Est-ce que vous êtes favorable à cette baisse des vitesses maximales sur le périph'?
Absolument non, je vois pas ce que ça apporterait de plus, si ce n'est d'engendrer encore plus peut-être de circulation, de bouchons et de nervosité. Parce qu'à Paris, en fait, depuis le début, on essaie de nous décourager de la voiture. Alors moi, comme j'expliquais au standard, j'ai 4 enfants, comment on va me décourager de la voiture? Et ce qui est marrant, c'est que j'ai eu affaire, de par mon travail, à des gens de la mairie du 20e. Ils me disent, mais nous, on veut décourager les gens de prendre la voiture. Ah oui. Mais moi, vous n'allez pas me décourager. La seule chose que vous allez faire, c'est me faire fuir de Paris. Mais pour mon travail, je peux pas vraiment fuir de Paris parce que je suis obligé d'être un peu dans le secteur de mon travail. Mais donc voilà, vous découragez comment les gens? Donc ça va engendrer encore plus de bouchons, encore plus de pollution, parce que les bouchons dans le quartier même ou à l'entrée du périph, parce que je suis en bord de périph, entre Bordelia et Port de Bagnolet, ça résout pas le problème. Donc en fait, je vois pas du tout ce que c'est, cette théorie de dire on va décourager les automobilistes de prendre la voiture, ça dépend qui et quoi et quand, quoi.
Oui, mais par exemple, Jonathan, vous avez 4 enfants, mais quand vous allez au boulot, bon, bah, vous êtes tout seul. Donc, est-ce que vous vous dites pas, tiens, je prendrais bien mon vélo parce que justement, en voiture, je mets trop de temps désormais?
Déjà, entre le 20e et le 16e, ben, par exemple.
Ah oui, mais c'est pas la porte à côté, ça. Je vous l'accorde.
Je prends souvent les transports en commun quand je suis vraiment seul et que j'ai déjà de par mon travail, des fois je suis obligé de transporter certains matériels parce que on fait des animations chez nous associatifs et bref, j'ai pas mal de choses, donc des fois je n'ai pas le choix de prendre la voiture. Mais quand vous devez amener vos enfants, quand il y a les jours de pluie, vous les amenez à l'école parce que je suis pas tout à côté de l'école, repasser par la maison, redéposer la voiture, déjà alors que normalement si j'avais pas mis toutes les restrictions dans Paris même, ça m'aurait pris 5 minutes, mais rien que pour faire l'aller-retour entre l'école et la maison, si je veux redéposer la voiture, j'en ai déjà pour une demi-heure. Après, faut prendre le minimum. Faut prendre le métro derrière. Vous voyez bien, ça fait déjà 1h30.
Bon, voilà, ouais, bien sûr.
Et quand c'est le périph', c'est encore plus. Des fois, on n'a pas le choix, en fait.
Non, mais ça je l'entends, et surtout quand on a effectivement, quand on a 4 enfants, ou même quand on a des difficultés pour se mouvoir. Voilà, tout le monde n'est pas en bonne santé à Paris. Il y a aussi des personnes âgées pour qui la voiture est nécessaire. Genre, la personne âgée, elle peut pas être en vélo, en trottinette. Bah non, c'est compliqué. Et donc effectivement, pour ces gens-là, ça pourrait être compliqué. Merci beaucoup en tout cas, Jonathan, d'avoir été avec nous. Et puis il y a une profession à laquelle on n'a pas pensé. En tout cas, on n'en a pas parlé depuis le début. Mais ce sont les chauffeurs de taxi ou les VTC, parce que déjà que c'est compliqué parce que ça roule pas. Bah alors là, 50 km/h, ils vont passer la journée à faire Paris-Orly.
Ils auraient peut-être accès à votre covoiturage.
Je pense qu'ils vont se faire engueuler par les clients s'ils vont à 50.
Il faudra partir plus tôt pour l'avion et le train. Oui. On va partir une petite heure à l'avance.
Ou la veille. La veille.
Formidable, je suis ravi. J'ai dit, attendez, si je prends l'avion, je pars ce soir.
Mais si tu veux pas stresser, tu pars la veille.
Oui, par la veille.
Et justement, très bonne transition pour donner la parole à Arnaud, qui est chauffeur de taxi ambulancier. Justement, et qui nous appelle de Couf, en Loire-Atlantique. Bonjour Arnaud.
Oui.
Et merci bonjour. Beaucoup, merci Arnaud d'être avec nous. En tant que chauffeur de taxi, on sait que voilà, Paris, ça roule pas très bien. Ce serait une catastrophe pour les chauffeurs de taxi si le périph' parisien passait à 50.
C'est toujours pareil. Pour moi, c'est pas vraiment la question de passer à 50. Pour moi, c'est une aberration parce que de toute façon, sur Paris, ça roule pas. Donc, c'est pas là vraiment le problème, c'est toujours la même chose, c'est qu'ils vont encore se mettre dans des trucs, comme j'entendais votre, la personne avant vous qui disait les deux roues. En fait, le deux roues, il englobe tout le monde. Non, non. Ce que je regarde, moi, dans les vidéos, et surtout sur Paris, c'est que des scooters qui ont des accidents. Les vrais motards qui ont passé un permis moto, il y en a beaucoup moins qui ont des accidents.
Oui, les taxis moto ont peu d'accidents, c'est des énormes motos, oui.
Oui, voilà, moi j'ai mon permis moto, je suis motard. Les vrais motards qui ont passé un permis moto, ils ont moins d'accidents que tous les mecs en scooter et en deux roues. Parce qu'on met deux roues partout. Et pour moi, en tant que taxi, nous on est à 80, voire 90, selon où on est sur Nantes.
Oui.
De passer à 70, parce qu'ils vont nous le passer aussi. Parce que,
bien sûr, évidemment qu'ils vont nous passer.
La maire de Nantes, c'est la collègue à votre maire à vous.
Donc, je sais. On en parle beaucoup sur ce plateau de la maire de Nantes.
Ça, on est bien d'accord. Donc forcément, elle va suivre. Parce que moi aussi, c'est le bordel à Nantes avec toutes les histoires qu'elle fait. Enfin bon, bref. Mais en tout cas, ça ne changera pas une chose, c'est que c'est encore une propagande de plus pour faire du vent qui ne sert à rien. Vaut mieux agrandir les routes, sécuriser les routes.
Alors, c'est pas très 2024, ça. Oui, alors agrandir les routes, là je pense que malheureusement, enfin pour vous en tout cas, ouais, on n'est pas sur une tendance de fond. Je veux dire, actuellement, on va pas se mentir.
Il y a encore des élargissements qui sont en train de se faire.
Oui, non mais d'accord, mais là aujourd'hui, c'est qu'à Nantes, la maire c'est Johanna Roland et il y a assez peu de chances qu'elle mette une voie de plus et qu'elle monte la vitesse maximale.
Elle n'est pas éternelle. Sur le deuxième point, c'est que Arnaud a dit élargir et sécuriser, et il a raison, parce qu'on dit toujours, on met toujours en cause la vitesse dans les accidents, mais il y a aussi l'état de plus en plus déplorable des routes, qui était une véritable cause de dangerosité extrême.
Tu as entièrement raison. Merci Arnaud de nous avoir donné votre point de vue, et merci à Pierre Lagage d'avoir été notre invité. Pierre Lagage qui est plutôt favorable aux 50 km/h. Est-ce que c'est le cas, je veux dire, pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, Rémi?
On va dire pas vraiment. 86% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux, ils sont opposés.
C'est marrant, je le sentais bien comme ça.
J'ai vraiment la bobo de cette émission, en fait.
86% d'assassins.
Oui. C'est pour ça qu'on vous prend, Élise.
On s'ennuierait sinon.
86% d'assassins de la route. Mais je suis traumatisé.
Mais en fait.
Je suis d'accord.
RMC, midi 15h. Estelle Midi. RMC partout. RMC tout le temps.
En podcast sur rmc.fr et sur l'appli RMC. Tous les week-ends, de midi à 13h, c'est les Paris RMC.
Conseils, pronostics, meilleures cotes, préparez vos paris sportifs du week-end avec la Dream Team Sport RMC.
Les Paris RMC, le rendez-vous des parieurs, tous les samedis et dimanches, midi 13h, avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff. RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Avec Rémi Barré, Perico Légas, Laurent Andrieux et Élise Godefard. Mais on va tout de suite commencer ce zapping avec un extrait des Grandes Gueules ce matin sur RMC. Est-il normal de rendre public la fiche de paie d'Emmanuel Macron? Son salaire était déjà connu, mais le journal Libération a révélé hier pour la première fois la fiche de paie du président, qui confirme que son salaire net avant impôt est bien de 14 586,12 €. Un salaire ridicule pour Tony, auditeur RMC, qui témoignait ce matin dans les GG.
Non, mais on est la France. Alors, je sais qu'on a dégringolé, le 7e pays, la 7e puissance, mais c'est que dalle pour un président de la République française. On est pas au Botswana, quand même. Alors, désolé pour les habitants du Botswana, mais enfin, voilà. Mais en revanche, on sait très bien qu'il ne fait pas ça pour l'argent, M. Macron. Ou même le président, ils font ça pour le pouvoir et ce que ça va apporter derrière. On sait très bien qu'il a gagné mieux avant et qu'il gagnera mieux après. C'est vrai que bon, 15 000 balles pour le. Enfin, je veux dire, il y a des PDG, ils doivent rigoler quand même. Ils doivent se dire, 15 000 balles, le mec, il gère la France quand même. Il ne gère pas un kebab à Bobigny, quoi. Je veux dire.
Perico Légas, est-ce que c'est normal de rendre publique la fiche de paye de Mme Macron?
C'est la plus prodigieuse opération d'intox que l'on connaisse sur la rétribution des hommes politiques, la somme est totalement vraie. Alors, on va remettre les pendules à l'heure, les points sur les i. Le budget de l'Élysée est de 105 millions. Oui. Le président de la République s'octroie le salaire qu'il veut. Là, il a décidé 14 000, vous savez pourquoi? Il faut bien qu'il ait des points de retraite, parce qu'un jour, il va s'arrêter.
C'est peut-être 20 000 bruts et 14 000 nets, non?
En fait, vous imaginez que le train de vie du président de la République est bien au-delà, et c'est normal. entre son alimentation, ses voyages.
Oui, bien sûr, il paye rien.
Oui, et qu'il ne paye pas sur son salaire.
En fait, voilà, donc 14 000.
C'est direct dans sa poche.
Ouais. Il aurait pu mettre 28 000, 30 000, ce qu'il voulait. Il a un budget qui est fixé par le Parlement de 105 millions. Il se le distribue comme il veut. Alors avec ça, il faut tout payer. Hein. Le fonctionnement de l'Élysée, la structure, la logistique, le personnel, c'est énorme. Mais s'il veut passer de 14 à 28 à 35, je pense qu'il a personnellement une fortune personnelle, Emmanuel Macron, qu'il n'a pas besoin de ce salaire. Et il a mis le salaire minimum. Sauf que c'est pas honnête de dire je ne vis qu'avec 14 000 euros par
mais
mois.
Mais personne n'a pensé qu'il vivait avec 14 000 euros par mois.
Hein. Il y avait un député très connu, René Dosière, qui faisait tous les ans, qui faisait une étude. Voilà. Et le budget de l'Élysée n'a cessé d'augmenter. Sarkozy l'avait réaugmenté. Hollande avait un petit peu réduit. Voilà. Enfin, le président de la République vit avec chaque année. Il a à sa disposition 105 millions d'euros. Totalement légalement voté par le Parlement, il en fait ce qu'il veut, lui a décidé de s'occuper d'un salaire de 14 000 euros, c'est tout à son honneur, mais qu'on ne nous fasse pas croire que c'est le salaire du président de la République, bah oui. Ce n'est pas vrai.
Non, parce qu'en vrai, il n'a pas besoin d'y toucher, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il va rarement au supermarché faire ses courses.
C'est qu'en fait, il a 14 000 euros, mais qui vont directement dans sa poche tous les mois, et à la sortie de son mandat, il peut s'acheter tout ce qu'il veut, parce que ça tout ça... Non, ça me choque pas du tout. Mais c'est vrai qu'il a, pour moi, et même les ministres, ils ont des budgets assez illimités en réalité dans les frais de fonctionnement quotidien. Et d'ailleurs, même après leur mandat, les présidents, toute leur vie, ils ont un bureau, de la sécurité, un chauffeur. Donc en fait,
ils gagnent beaucoup plus concrètement.
Voilà.
Après,
donc c'est en faisant des conférences.
Non. Il est membre à vie du Conseil constitutionnel.
Exactement.
S'il veut garder le poste, même sans y aller, il touffe la rétribution voilà. Qui est très confortable.
Oui, mais après, s'il va faire des conférences comme Bill Clinton ou encore Barack Obama, crois-moi, il va prendre un petit peu d'argent.
Rassurez-vous, le président de la République française est à l'abri du besoin.
Oui, j'étais pas hyper inquiète.
Voilà. Mais 14 000, c'est quand même...
Toi, ça te paraît beaucoup?
Non, je trouve ça pas honnête de dire je gagne 14 000 euros.
Mais c'est pas lui qui a dit ça.
Je sais bien, non mais... Sauf
lui, il a pas dit ça.
Non, la fiche de paix est faite par lui. C'est lui
qui a dit... Voilà. Non mais d'accord, mais voilà, en fait, donc, il s'est attribué 14
millions... Et s'il l'a laissé communiquer, c'est parce que ça l'intéresse. Et là, vous avez aujourd'hui des gens...
Le président de la République, c'est pas lui qui décide des articles de Libération, excusez-moi.
Non, mais... Je crois qu'ils ont un peu de mal à l'avoir.
Non, mais oui, on est obligé de la communiquer, mais voilà... S'il a fixé cette somme, c'est pour faire croire qu'il gagne ça. Je trouve que c'est pas honnête intellectuel.
Mais moi, je pense que personne ne pense, qu'Emmanuel Macron a 14 000 euros pour vivre chaque mois.
T'as bien vu comment ils ont réagi au GG.
Après, moi, je vous rappelle cette feuille de paye, c'est-à-dire que la somme de 14 000 euros, on la connaissait déjà. Donc, je pense que publier la feuille de paye avec le détail des retenues apporte quoi que ce soit. Je me contrefous de savoir combien il paye à la CSG. Moi, ce qui m'intéresse plus, effectivement, c'est le budget de fonctionnement de l'Élysée qui s'est envolé sous Macron, avec frais de bouche, frais de représentation, voyage à Tire-Larigot.
Après, les matières alimentaires ont augmenté, vous le savez.
Oui.
20%. Bah, c'est 20% au supermarché, mais il faut bien qu'ils se fournissent.
Les cerises marocaines, voilà. Et ça, à mon avis, ça, c'est un vrai sujet. Après, son salaire, on s'en fiche, parce que, objectivement, oui, à côté de M. Tavares, il n'est pas très bien.
Surtout, il y a des hauts fonctionnaires à la République française. Vous avez des hauts fonctionnaires à Bercy qui sont à 20, 25, 30. Voilà. Il y en a beaucoup, plus qu'on. C'est peut-être justifié aussi. Hein. Voilà.
Mais ils ne sont pas logés, nourris.
Il n'est pas le plus gros salaire de la République, ça c'est clair.
Ils sont pas logés.
Mais il a le plus gros budget de l'État. C'est une liste civile pour les monarchies. La liste civile en France, c'est 105 millions d'euros.
C'est vrai qu'il est, voilà, il est logé, nourri, blanchi. Il se la kiffe, on va dire. Exactement.
Même les costumes pour voyager en première classe.
Mais ça c'est vrai, mais il doit s'en faire prêter aussi beaucoup. Tu vois, je pense qu'il n'achète pas tous ses costumes. Et à chaque fois qu'il y a un voyage officiel.
Il y en a qui ont eu des histoires avec des costumes.
Oui, mais c'était pas président de la République. Non, mais ils auraient pu le devenir.
Ils auraient bien voulu.
Oui, c'est ça. Mais ça n'a pas.
Il aurait dû attendre pour les costumes.
Ça n'a pas marché. Les grandes gueules ce matin sur RMC. J'adore ce sujet. Pour ou contre les mariages sans enfants. C'est une tendance qui s'installe de plus en plus dans notre société. Après les restos, les hôtels interdits aux enfants. Eh bien désormais, les enfants sont de moins en moins acceptés lors des cérémonies de mariage. En effet, les mariés préfèrent s'amuser entre adultes et ne pas avoir à gérer les enfants ou encore à prendre des nounous. Ce que comprend tout à fait Aurélie qui témoignait chez les GG.
Pour moi, les gens ils font ce qu'ils veulent dans leur mariage. Moi, ma sœur elle s'est mariée, la table pour enfants c'était 32 enfants. Voilà.
Et là, c'était un cauchemar.
Ça n'était pas mon mariage et j'étais loin de la table enfant. Moi, pour mon mariage, j'avais deux enfants. Mais parce que c'était fortuit et parce que on avait une distance certaine qui a fait que mes amis sont venus sans leurs enfants. Voilà. Moi, j'ai pas exclu les enfants de mon mariage, par contre. Non.
Par contre, tout le monde avait compris.
Mais j'avoue que ça m'a arrangé aussi que j'ai moins d'enfants que d'adultes. Enfin, voilà.
Laurent Dandrieu, est-ce que c'est normal les mariages sans enfants ou est-ce que ça vous scandalise ?
Ça me scandalise pas, ça m'attriste. Ah bon ? Je fais les deux, évidemment, parce qu'il y a des mariages où, pas par idéologie, mais parce qu'il n'y a pas de nounou, parce qu'il y a une pièce d'eau dangereuse au milieu de la réception. Voilà, on me demande plutôt de venir sans ses enfants. Il y a une vraie différence d'ambiance. C'est-à-dire que les enfants, je suis désolé, mais pour moi, c'est le triomphe de la joie. Et un mariage sans enfants, c'est tristoun, c'est guindé, c'est sérieux. Il n'y a pas cette vibration, il n'y a pas cet enthousiasme, il n'y a pas ces yeux émerveillés des petits-enfants quand ils regardent la robe de la mariée. Pour moi, ça fait partie de la dimension magique du mariage, la présence des enfants.
Alors après, je pense qu'il faut faire la distinction entre, par exemple, un couple qui se marie, qui a déjà des enfants, donc là, et tous tes potes ont des enfants, donc t'invites, mais si tu te maries et que t'as pas d'enfants, tu vas pas inviter juste les enfants des autres, en plus ça coûte cher.
A priori, si tu te maries, en règle générale, c'est que tu espères en avoir, mais c'est quand même souvent le cas, et donc c'est aussi, c'est déjà une manière de se mettre en condition, mais moi
après,
je trouve
c'est... En vrai, c'est hyper cher, t'as toujours un gosse qui crée des problèmes, t'as toujours... il faut payer des nounous, des machins, personne ne s'occupe de ses enfants.
C'est moins cher de faire deux, trois tables d'enfants où on leur donne jambon purée que de régaler les invités adultes qui prennent 12 coupes de champagne chacun, 3 bouteilles de vin.
Les gamins, il faut s'en occuper.
Mauvais argument. Tu prends deux nounous et puis voilà.
Chez mes copains, on fait l'inverse, nous. Nos mariages de ma génération. Non, on fait des mariages où on n'invite pas. Désolé, on n'invite pas les vieux, enfin les copains des parents. En gros, parce que t'as toujours les parents qui disent faut que t'invites ma cousine, mes amis, et il y a tout le temps plein de vieux qui en fait vont se coucher à minuit de toute façon. Pendant que nous, non, pas marre aux vieux, je les adore, c'est mes amours. Mais c'est vrai qu'à un mariage, t'as envie de pouvoir faire nimp toute la nuit. Donc ça coûte cher d'avoir des gens qui vont partir à 23h se coucher.
Mais pourquoi
donc,
ça coûte cher
Parce que un traiteur c'est très cher aujourd'hui.
Mais d'accord, mais en fait, tu n'invites pas quelqu'un en fonction de l'heure à laquelle il va partir de ton mariage.
On est loin du débat.
Surtout, moi, je veux de la teuf. Et un enfant, c'est trop mignon, on met le mini-club, ils kiffent entre eux.
Un mini-club pour vieux.
Par exemple, là, cet été, j'ai un mariage un mois, et mes copains, ils l'ont fait exprès loin. Pour pas que les vieux ils viennent en fait.
Mais quel
terrible.
Quel racisme.
Ouais, désolé.
Délicieux débat.
En même temps, délicieux débat. Mais je ne fais pas de jeunisme. Ce que j'observe.
Mais je trouve ça.
Laurent l'a un peu évoqué. Il y a une contradiction philosophique. Le mariage, c'est quand même dans le but d'avoir des enfants.
Mais
du mariage d'un homme et d'une femme.
Quand t'as des gens de 60 ans qui se marient, il y a plus de chance.
C'est la biologie terrestre de l'être humain. Le but de se marier, c'est de faire des enfants. Mais il est interdit de séjour pendant la cérémonie. La raison du mariage est interdite de séjour.
Mais si t'as des mômes,
Moi, j'adore quand j'ai des enfants.
Je vais vous dire. Alors, il ne faut pas faire venir des êtres susceptibles d'avoir un changement de couche. Donc, pas de trop petit, pas de trop vieux pour le mariage. Sinon, ça vous le gâche. Et alors, deuxièmement, je vais être terrible, mais aujourd'hui, il n'y a pas que le mariage. Les enfants mal élevés pourrissent la vie de l'humanité. C'est un véritable cauchemar.
Mais bien mariage, sûr, tu as raison.
Ce que vous voulez. J'ai quatre enfants, j'adore. Je ne les supporte plus. J'ai envie de les battre.
Mais, voilà, mais arrêtez, on n'a pas le droit, c'est illégal.
Si tes amis ont des enfants mal élevés, c'est que tu as mal choisi
alors,
tes
moi,
amis.
Je ne vais que dans des cérémonies et je ne fréquente plus que mes amis où les enfants sont bien élevés. Voilà. Quand mes enfants.
Tu peux pas le savoir avant.
Quand
tu reçois un carton d'invitation.
J'ai ma carte routière. J'ai ma carte des familles.
Arrêtez.
J'ai ma carte. Voilà. Et je vois.
Choisir.
Il m'est arrivé une fois, je vous l'ai dit, d'être dans un restaurant avec mes quatre enfants et le restaurateur me dit, monsieur, je vous invite parce que vos enfants se sont tellement bien tenus. J'ai pas vu ça depuis 15 ans. Vous m'avez fait plaisir. Et les gens se levaient en disant, merci d'avoir des enfants pareils. Je dis ça de
dire c'est parce qu'ils avaient reconnu Natacha.
Je m'en tiens à la phrase. Je m'en tiens à la phrase de Sacha Guitry, une des plus belles. J'aime les enfants des autres parce que quand ils se mettent à pleurer, on les ôte.
Non. Oui, mais donc vous êtes pour les mariages sans enfants.
C'est nain.
Non, je suis pour l'éducation des enfants.
Mais d'accord, mais ça
c'est qu'il y ait sanctions. Je vais pas dire physique, mais autorité parentale qui fait que des enfants se tiennent.
D'accord.
Et comme je connais des enfants bien élevés qui restent encore humains, je pense qu'il y a encore des cérémonies collectives et des fêtes où l'enfant bien élevé participe et là c'est la joie.
Pierrico, vous êtes marié d'innombrables fois. À chacun de vos mariages, il y a des enfants invités ?
À chaque fois, il y a eu des enfants invités, mais des enfants extrêmement bien élevés. J'en ai fait un récemment.
Un enfant ?
Je suis allé avec un mariage.
Là, je me disais, on m'a caché un truc.
On n'était pas au courant.
Je suis à l'abri de rien, ma chère Estelle. Non. Je n'ai que 65 ans.
Oui, c'est vrai. Bon, pour les hommes, voilà, c'est plus simple.
Et s'il faut que je continue un jour comme ça à améliorer
le nom,
cette humanité,
je
ferai à l'humanité le nom de ma personne. Ce n'est pas un problème. Mais je vais aux cérémonies où il y a des enfants et ce sont des enfants bien élevés. On a un code entre nous où on dit les gosses sont bien élevés. Je peux vous dire que c'est un bonheur. Bon. L'enfant mal élevé, ça peut vous rendre féroce.
Oui,
ça,
je l'entends. Tiens, mais c'est un sujet pour vous, ça. Perico, c'est cadeau. Apolline Matin, ce matin, sur RMC, des tomates espagnoles ou marocaines à 0,99€. Est-ce que c'est choquant? Les producteurs de tomates françaises sont en colère contre la multiplication des tomates espagnoles et marocaines vendues chez nous. En effet, on trouve actuellement des barquettes de tomates cerises à moins d'1€. Une concurrence déloyale pour les producteurs qui organisent actuellement des opérations de sensibilisation près de la frontière espagnole.
Est-ce que vous avez déjà vu des produits comme ça dans vos rayons quand vous faites vos courses? Parce que ça, c'est des produits marocains.
Des tomates cerises à moins d'un euro la barquette, Élise en achète car, dit-elle, les temps sont durs.
Avec le pouvoir d'achat qu'on a, c'est vrai que c'est pas évident pour nous en tant que Français qui ont pas beaucoup de moyens. C'est vrai qu'on préfère prendre au moins cher plutôt que plus cher.
Cette colère des producteurs de tomates français est jugée légitime par les automobilistes consommateurs comme Annie.
100% avec eux.
Pourquoi?
Parce que je trouve que leurs conditions de vie sont difficiles et la concurrence déloyale.
Bon alors c'est pas nouveau, hein, les tomates espagnoles et marocaines à 0,99€, Perico Legas, mais j'ai quand même envie de poser une question, mais gustativement ça vaut quoi?
Alors elles peuvent être très bonnes. Non, le drame c'est la consécration diabolique du mauvais libéralisme. Voilà. Donc, on a une Europe qui est censée protéger nos agriculteurs. Nous sortons d'une crise quand même terrible avec des tensions. On a une production de tomates françaises sublime. Voilà. 36% de la tomate consommée en France est importée. Ça veut quand même dire que 64% est française. Et sur ces 36%, 67% vient du Maroc ou de l'Espagne. Le problème, c'est que les Marocains, ils ont raison de dire, le président du syndicat des producteurs de tomates marocaines dit, si on en exporte, c'est que la France en demande.
Bah oui.
Et si on n'en exportait pas, les Français seraient obligés de faire de la tomate sous serre artificielle. Il y en a encore aussi de la tomate artificielle. Le problème, c'est l'écart de prix. 0,99. Je suis allé hier comparer les deux tomates. 5,99. La Saveol bretonne, délicieuse. Ça fait 5 euros d'écart. C'est à 4 euros d'écart. C'est énorme. Voilà. Sauf que les Français vont crever à 7 heures. Mais pourquoi c'est pas? Parce que la grande distribution, elle encourage les Marocains à se produire. Et je peux vous dire que les conditions de production de cette tomate marocaine, j'incrimine pas les Marocains. Il faut qu'ils produisent un rendement. Sans ça, la grande distribution leur prend pas. Et donc, à 0,99 le kilo, je peux vous dire que la dose de pesticides et d'intrants qu'il y a dans ces tomates-là, c'est 10 minutes de vie en moins chaque fois qu'on les goûte. Ça ne veut pas dire que les Français sont tout impeccables. La tomate, c'est un produit de saison, ce qui serait bien. On a dit que les enfants devaient être bien élevés. Est-ce qu'on peut habituer le consommateur par une éducation scolaire? Vous mangez du produit de saison en saison, et la tomate, elle est de juin à septembre. Vous n'en mangez pas le reste de l'année.
Mais moi, franchement, une tomate à 5,99€, la barquette de 250 grammes, j'achète pas. J'achète pas 6€ une barquette de 250 grammes.
Vous savez, dites variétés anciennes.
Ouais,
8, 9, 10, c'est de l'eau, c'est de la flotte du coton. Même celles-là ne sont pas bonnes.
Bien les collègues.
Alors j'en plante, moi, de la.
Je les ai goûtées l'année dernière, c'est une tuerie.
Elle pousse partout. Elle est tout le temps bonne. Et je vous en ramène une corbeille entière. À la place des roses, vous avez des tomates.
Perico Legas, juste une question. Si je vous mets un bandeau sur les yeux, je vous fais goûter de la tomate française, de la tomate espagnole, de la tomate marocaine, est-ce que vous faites la différence?
Alors, sur la même variété, oui. Mais je vais peut-être tomber sur une tomate espagnole et marocaine qui sera infiniment meilleure que la tomate française. Je m'en fous, je veux de la bonne tomate. Je veux savoir comment elle a été cultivée, est-ce qu'elle est saine, est-ce qu'elle a fait du bien à l'environnement et surtout, est-ce qu'elle a rétribué le travailleur agricole qui l'a produite. Pour moi, c'est l'essentiel.
RMC, midi 15h, Estelle Midi. Le samedi soir, 19h-20h30 sur RMC, c'est Stephen Time. Avec Stephen Brun et Benoît Boutron, ne ratez rien de l'actu sport de la première partie du week-end. De nombreux invités, des débats enflammés et forcément, beaucoup d'humour. RMC, Stephen Time, ce soir, 19h-20h30.
Du 10 au 16 juin, c'est le Betclic Bordeaux Premier Padel avec RMC. Les meilleurs joueurs et joueuses de padel au monde seront à Bordeaux pour disputer un des tournois les plus prestigieux de l'année. Place disponible à partir de 9 euros sur arkeaarena.com. Le Betclic Bordeaux Premier Padel, c'est du 10 au 16 juin à l'Arkea Arena avec RMC.
7h. Oh. 7h02. Oh. 7h03.
Bonjour, la météo.
Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player.
Radio Player, toutes les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées.
RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
Bienvenue à Paris.
Il reste une petite semaine d'Olympiade. Si ça continue comme ça, on risque de finir nos jeux à zéro médaille d'or.
L'esprit Coubertin, une comédie réjouissante et assumée.
Il y a eu un SMS dans le public, ça fait tout de suite. Moi j'entends tout de suite. Je plonge, je crois.
Avec Benjamin Voisin et Emmanuel Berco.
L'esprit Coubertin, actuellement au cinéma.
RMC présente la 15e édition des trophées PME RMC.
Le premier concours des PME de France.
Vous dirigez une PME? Inscrivez-la dès maintenant sur trophéepmerMC.com.
Gagnez 100 000 euros d'espace publicitaire sur RMC. Les trophées PME RMC.
Ensemble, bougeons-nous.
Pas le temps d'écouter la radio aujourd'hui? Sur RMC.
Sur RMC. Vous avez toute la nuit.
Rediff.
Estelle Midi.
RMC s'engage avec vous.
Et Guillemette, aujourd'hui, vous revenez sur l'un de nos très, très gros dossiers. C'est l'affaire des appareils respiratoires de la marque Philips.
Exactement. C'est un scandale sanitaire qu'on vous a révélé sur RMC il y a désormais 3 ans. Ces appareils respiratoires qui sont utilisés contre l'apnée du sommeil présentaient des conséquences sur la santé des victimes, des troubles respiratoires. Il y avait des soupçons de cancer aussi. Et en fait, la source du problème, c'était la mousse insonorisante qui était dans le système de l'appareil. Elle se désagrégeait avec l'humidité de la respiration et ça répondait à des produits toxiques dans les personnes qui l'utilisaient. Donc, dès avril 2021, Philips a décidé de rappeler tous ces appareils, plus de 5 millions à travers le monde. Et aujourd'hui, Philips nous l'affirme, c'est bon, tous ces appareils qui présentaient ce défaut ont bien été rappelés.
D'accord, il n'y a plus aucun appareil en circulation, sauf qu'en fait, on connaissait bien avant cette date le défaut de conception de cet élément.
Exactement. Dès 2016, le fabricant de la mousse a alerté Philips en lui disant que ça présentait a priori un souci. Nous, on a posé la question à Philips, Philips France, avec qui on a échangé, et ils nous ont répondu, ils nous ont pas vraiment répondu sur ce point. Alors, en tout cas, ils ont pas souhaité faire de commentaires particuliers sur ce sujet. Et puis, il y a eu un coup de théâtre, parce que figurez-vous, Estelle, qu'il y a 3 semaines, il y a eu un accord amiable qui a été signé aux États-Unis entre Philips et 60 000 plaignants, à qui Philips va dédier une enveloppe plus d'un milliard de dollars. Pour Sylvie, qui est une des victimes françaises, ça sonne comme un aveu de culpabilité. Écoutons Sylvie.
C'est une satisfaction de se dire, vous avez fait du mal, vous allez être puni. Moi, j'estime qu'il devrait être encore plus puni.
Et donc Sylvie, c'est une des utilisatrices, ancienne utilisatrice de cet appareil, de ce respirateur. Elle a eu un cancer du nez après des années à avoir utilisé le respirateur. Et elle fait partie d'une action collective qui rassemble 1500 personnes en France aujourd'hui, sous l'action derrière l'avocat maître Christophe Legvac. Il y a une plainte pénale qui a été déposée pour homicide involontaire, mise en danger de la vie d'autrui et tromperie. Le parquet de Paris a ouvert une enquête, mais il n'y a pas encore de juge d'instruction qui a été désigné. Donc pour maître Christophe Legvac, il dénonce une lenteur de la justice française. Et pour lui, un accord à l'amiable, comme ça se fait justement aux USA, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Écoutons-le.
Si il y a une prise en charge complète du préjudice que nous réclamons à Philips aujourd'hui et rapide, ça me paraît être intéressant. C'est à Philips de nous dire s'ils sont prêts à discuter ou pas.
Est-ce que c'est possible un accord de ce type en France, Guillemette?
Techniquement, il n'y a aucun problème. On peut tout à fait faire ce type d'accord à l'amiable, un accord transactionnel. Nous, de notre côté, on a recontacté toutes les victimes qu'on suit depuis 3 ans, plus d'une vingtaine. On leur a posé la question, est-ce que vous seriez pour ou contre ce type d'accord? Et à vrai dire, tout le monde n'est pas très à l'aise avec cette idée. La plupart nous ont dit qu'ils aimeraient au contraire que ça aille jusqu'au bout, qu'il y ait une procédure pénale. On a posé la question à Philips, est-ce que vous, de votre côté, vous envisagez un accord transactionnel avec les plaignants français? Pour le moment, pas de commentaires.
Merci beaucoup Guillemette Franquet. RMC s'engage avec vous, c'est tous les jours 13h50 dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h,
Estelle Midi.
Bonjour à tous, c'est Jean-Christophe Drouet.
RMC, les grandes gueules du sport.
On se retrouve tout à l'heure de 9h30 à midi pour les grandes gueules du sport avec David Douillet, Marc Madiot, Fred Weiss et Christophe Cessieu. Au programme notamment l'Euro 2024. Passe-t-il au second plan cet été? C'était la grande annonce cette semaine de la liste de Didier Deschamps. Du vélo également. Et Julien Alaphilippe, très en forme en ce moment, doit-il changer d'avis et faire le Tour de France? Soyez bien présents. À tout à l'heure, 9h30 pour les grandes gueules du sport sur RMC.
Du 10 au 16 juin, c'est le Betclic Bordeaux Premier Padel avec RMC. Les meilleurs joueurs et joueuses de padel au monde seront à Bordeaux pour disputer un des tournois les plus prestigieux de l'année. Place disponible à partir de 9€ sur arkeaarena.com. Le Betclic Bordeaux Premier Padel, c'est du 10 au 16 juin à l'Arkea Arena avec RMC.
Appel à candidature. Laure Closier.
La BFM Academy revient. Vous êtes entrepreneur, vous croyez en votre projet, vous postulez sur bfmacademy.fr, vous venez pitcher en région et vous avez 150 000 euros d'espace publicitaire à gagner à la clé. On compte sur vous.
Jusqu'au 16 juin, déposez votre candidature pour la nouvelle saison de la BFM Academy sur bfmacademy.fr.
Pierre-Henri de Menton, directeur de la rédaction de Challenge.
Dans Challenge cette semaine, un dossier spécial résidence secondaire. Les fins limiers de Challenge ont enquêté dans les régions où il fait bon vivre, les critères qui fixent les prix, les spots qui montent, les conseils pour bien acheter. Dans Challenge spécial résidence secondaire, en bonus, des annonces de biens très intéressants.
Trop pressé aujourd'hui ?
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Le chiffre du jour. 25% des Français ont déjà vécu en colocation, que ce soit pour une courte durée pendant les études ou de manière plus longue entre copains, avec des seniors, avec des inconnus. La vie en communauté séduit de plus en plus de Français. Mais alors Rémi, quel est le profil type du colocataire?
Ben, on en a une idée assez précise grâce à l'étude réalisée chaque année par logservice.fr. C'est un spécialiste de la location et de la colocation entre particuliers. Dans le détail, alors on ignore exactement le nombre de colocataires en France. Les derniers chiffres que j'ai trouvés ce matin, 2,5 millions de colocataires en fond de personnes en colocation en France, mais ces chiffres ils datent de 2017.
On c'est imagine bien, bien
que après le confinement et avec la hausse des prix et la crise de l'immobilier, ça doit être plus aujourd'hui. Donc dans le détail, l'âge des colocataires en tout cas est un critère déterminant dans le choix. 26% des candidats à la colocation déclarent rechercher des profils de moins de 30 ans. Seuls 27% des candidats acceptent des profils ayant plus de 50 ans. Bien que la majorité, 87% des recherches, soient mixtes, les femmes sont plus nombreuses à rechercher des colocations du même sexe. 23% des femmes ciblent uniquement des colocations entre femmes, alors que seuls 3% des hommes exigent une colocation entièrement masculine.
Normal, oui. Voilà. Ah oui, c'est bizarre.
Ça donne déjà des petits indicateurs.
Oui, ça donne voilà. Ce choc.
64% des recherches, en tout cas de colocation, ciblent la province, 36% l'Île-de-France. Quant au loyer moyen d'une chambre en colocation, il s'élève à 448 €, charges incluses au niveau national. La colocation confirme donc son statut de moyen le plus économique pour se loger. Pour un studio en location classique, il faut en moyenne débourser 547 €. C'est 22% plus cher.
Alors, la colocation, est-ce un bonheur ou un calvaire? Perico, les gars, est-ce que vous avez déjà vécu en colocation?
Oui.
Ah bon?
En période étudiante, et je suis resté 3 jours.
C'est marrant, je l'imaginais bien
on
ainsi.
A la réponse.
Je me suis trouvé une chambre seule. C'était des gens qui étaient trop heureux de vivre. Donc il y avait du bruit, il y avait du mouvement. Voilà.
Bah, c'est une coloc, quoi.
Salle de bain était un petit peu dans tous les sens. Une coloc, voilà. Mais alors j'ai connu tellement de belles histoires. Pas seulement sentimentales, des belles amitiés, des colocations qui se passent bien, des études qu'on réussit parce que la colocation, justement, était avec des gens qui complétaient quelque chose. Donc il y a autant de bonnes et belles versions que de versions tragiques. C'est pas une obligation légale, hein. Si ça va mal, on s'en va.
Oui,
donc le mec qui te dit, ça fait 6 ans que je suis en colocation, je vis un cauchemar, je lui dis, ben écoute, mon pauvre ami,
déménage.
Vous allez prendre une décision. Exactement. Mais je trouve que la colocation est un instant, une expérience sociale, intellectuelle et même culturelle qui peut être très intéressante. Donc voilà, et en tout cas, elle permet aujourd'hui à des gens où il y a un drame dans le logement des étudiants, c'est quand même la vraie dernière solution qui permet d'habiter dans des conditions absolument
parfaites
quand on fait des études.
T'as un peu plus d'espace, c'est plus sécurisant, même pour les parents. Quand t'as un gamin qui quitte la maison à 18 ans, bah, tu préfères qu'il soit en coloc plutôt que seul.
Pour mettre les pieds dans le plat. En colocation, depuis la nuit des temps, il y a toujours eu qu'il y avait un problème d'hygiène de gens plus ou moins propres, plus ou moins rigoureux.
Ah, c'est ça. Ouais, c'est
aujourd'hui, il y a un problème d'individualisme, de mauvaise éducation, qui fait qu'on n'est pas respectueux de la sérénité du territoire de l'autre. Voilà. Alors, soit on tombe entre gens très rigoureux et on se met tout de suite d'accord sur un règlement commun, soit on est sur des gens un petit peu plus poètes, un petit peu plus artistes, et là c'est plus difficile à gérer. Ça ne retire pas du charme. Mais bon, il y a eu tellement de belles amitiés qui se sont faites avec la colocation qu'on ne peut pas, on peut pas la montrer du doigt.
Élise, est-ce que vous avez vécu en colocation durant vos études ?
Évidemment. C'était les meilleurs souvenirs de ma vie. Enfin, c'est encore aujourd'hui les plus beaux souvenirs. Et moi, en plus...
Avec des amis ou des inconnus ?
Avec des amis.
D'accord.
J'ai décidé d'emménager avec deux copines, on était trois. On a fait les meilleures fêtes de nos vies. On s'est tiré vers le haut aussi, parce que c'est quand on va pas bien. En fait, vous savez, moi, je pense que ce qui va réparer le monde, c'est le vivre ensemble, de toute façon. Et que c'est le lien social. Et je suis également scout. Moi, j'ai fait 15 ans de scoutisme. Et pour moi, la vie en communauté, c'est ce qui nous différencie. C'est ce qui différencie une société qui marche d'une société qui marche pas. Et je pense que quand je vais prendre ma retraite, par exemple.
On n'y est pas encore.
On n'y est pas encore, mais je l'envisage parce que mes parents d'ailleurs l'envisagent. Au lieu d'aller en maison de retraite, dans des maisons de retraite où on est souvent maltraité et c'est horrible et on est tout seul, on est sans nos copains. Et ben mes parents, ce qu'ils ont prévu de faire et ce que je vais faire, je pense aussi, c'est acheter avec des amis une maison à la campagne. Et vivre avec mes amis, avec du personnel soignant qui viendra s'occuper de nous.
Moi aussi, je rêve de ça.
Voilà. Et comme ça, on vit entre potes, on vieillit ensemble, on meurt ensemble. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Et en fait, on est en contrôle de avec qui on vieillit et on kiffe en fait. Et je pense aussi que on voit de plus en plus le co-living se développer. J'étais chez une copine l'autre jour et dans son immeuble, enfin dans la cour de son immeuble, en face il y a un immeuble de co-living et tu as des gens de tous les âges. Donc
on va rappeler ce qu'est le co-living.
Voilà, le co-living en fait c'est comme une colocation mais à l'échelle d'un immeuble où tout le monde peut louer une chambre et les espaces communs sont en commun, c'est-à-dire les cuisines, il y a un salon où tout le monde peut se retrouver.
Oui, c'est très grand en fait.
C'est très très grand, mais ça cartonne en fait en ce moment parce que les gens ont besoin de liens sociaux, on est de plus en plus seuls, surtout depuis le Covid. On est de plus en plus seuls, on se sent pas bien et en fait ne pas être tout seul, ça sauve la vie.
Faut bien tomber aussi parce que
oui, faut bien
toi tu t'es mise avec deux copines, donc a priori
bien
ça
sûr.
Va. Mais quand tu te retrouves avec des inconnus,
tu changes. Tu peux déménager,
mais tu changes. Mais bon, tu démarres ton année d'études ou quoi, et tu te retrouves avec des gens qui n'ont absolument pas les mêmes centres d'intérêt que toi, ou qui ne se lèvent pas, qui ne se couchent pas au même moment, qui n'ont pas les mêmes habitudes de vie. Ça peut aussi être, ça peut aussi être difficile.
Mais ça fait partie du jeu de la vie. C'est-à-dire, tu te retrouves. J'ai des potes qui se sont retrouvés dans des colocs pourris. Bon, ils sont restés 3 mois le temps de trouver un autre appart, et puis ils sont partis et ça s'est bien passé.
Laurent Dandrieux, qu'est-ce que vous pensez de la colocation ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a déjà traversé l'esprit ?
Alors moi, j'ai fait probablement comme Monsieur Jourdain. Du co-living sans le savoir, parce que moi j'ai habité pendant 15 ans un immeuble où j'avais mon appartement, mais j'avais des amis qui habitaient à d'autres étages.
Ah, génial,
et donc, moi aussi j'ai ça.
On avait notre autonomie, mais effectivement on se retrouvait fréquemment chez les uns et chez les autres, ça c'est une bonne formule. Après, je pense qu'en matière de. Vécu en colocation. Je pense qu'il faut distinguer déjà la colocation subie de la colocation choisie. Il y a effectivement des gens qui choisissent parce qu'ils trouvent ça sympa et ils se mettent avec des copains. Et il y a beaucoup de gens qui le font de manière subie parce que pour des raisons économiques essentiellement, et là ça peut vite tourner à l'enfer. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les colocations atypiques qui sont en train de se développer,
c'est-à-dire
seniors et jeunes,
jeunes
avec des gens qui autrefois vivaient dans la rue, et donc c'est un moyen de les aider à se réinsérer dans une vie plus normale. Et surtout, on parlait tout à l'heure des mariages sans enfants, et je pense que en fait c'est vraiment pour moi une problématique très importante, c'est-à-dire que la société qui autrefois était par nature intergénérationnelle, c'est-à-dire que les grands-parents ils continuaient à vivre avec vous, ils mouraient chez leurs enfants. Aujourd'hui, la société est complètement fracturée entre générations qui s'ignorent et qui ne se parlent plus, qui n'ont plus de contact. Et je trouve qu'au contraire, ce contact entre générations est extraordinairement enrichissant, et je trouve que ce système de colocation intergénérationnelle est un truc vraiment formidable, et j'espère que ça va beaucoup se développer.
J'ai oublié de vous livrer une deuxième anecdote. J'ai eu une deuxième colocation avec ma première épouse. Elle était en colocation. Non. Elle était en colocation à un très bel appartement de Saint-Sébastien au Pays Basque.
Ouais.
Il y avait 8 filles. J'étais le seul mec. Et les 7 autres étaient célibataires. Ça s'est très bien passé.
J'imagine bien.
Surtout pour toi.
Perico, est-ce que du côté de nos auditeurs et de nos téléspectateurs, Rémi, on a des témoignages de colocations qui se sont mal passées?
Ouais, j'ai ce témoignage de Michel. Je ne pense pas qu'il sera avec nous au 32-16, mais il nous écrit sur Direct Studio. J'ai vécu en colocation avec un très bon ami et le reste s'est transformé en cauchemar. Celui-ci a révélé sa véritable personnalité. Intrusif, toujours à se comparer aux autres, etc. Ce qui a sauvé notre amitié, c'est que j'ai pris mes distances. C'était la fin de la colocation. Bref, la colocation, pour moi, c'est un coup de poker.
Oui, exactement, tout dépend des gens avec
les gens. Il faut bien choisir ses amis.
Il peut y avoir un lien amical et la colocation fait tomber le voile.
Exactement, vous savez, c'est comme un couple, hein, quand vous commencez à habiter ensemble, et là, vous vous rendez compte que c'est pas si bien que ça, finalement.
Surtout l'homme.
Pourquoi ?
C'est celui qui pose un problème.
Parce que quand
on fait la cour, on est très bien.
Et
quand on est en habitant ensemble, on se laisse habiller.
Et puis après, il y a un relâchement. Mais bien sûr. Nous sommes avec Frédéric qui nous appelle de Saint-Bonnet-de-Mure dans le Rhône. Bonjour Frédéric.
Bonjour, salut la zone.
Mais oui, salut la zone. Salut la zone.
Estelle, parce que je suis 100% d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à ça. Donc voilà.
Frédéric, c'est bien ou c'est pas bien la colocation? Vous avez vécu en coloc, vous?
Oui, alors moi j'ai les deux exemples, c'est pour ça que j'ai appelé, c'est-à-dire que moi j'étais en coloc avec mon meilleur ami il y a 20 ans de ça, qui est toujours mon meilleur ami.
Ouais.
Un petit peu comme votre intervenante juste avant, pour moi c'est pareil, ça a été les meilleures années de ma vie, des fêtes incroyables, on était jeunes, on habitait dans le centre de Lyon, on avait un grand appartement du fait qu'on était deux, donc c'était plus facile pour le loyer, donc tous les anniversaires, les fêtes étaient chez nous, et moi je viens d'une époque où les gens renvoyaient les invitations, où il y avait du sociable. Et du coup, on était toujours les uns chez les autres. Enfin, moi,
j'ai
vécu des moments extraordinaires en coloc. Voilà. Donc, à ce niveau-là, c'était génial. Quand on refait des repas aujourd'hui, 20 ans après, on est souvent en train d'en reparler. Ça a été une époque formidable, comme dirait l'autre, le berger espagnol, quoi.
Voilà. Oui, mais alors, vous avez dit, j'ai connu les deux. C'est quoi le deuxième exemple?
Alors, le deuxième exemple, c'est que mon meilleur ami, lui, a dû partir pour des raisons familiales du jour en main. Et puis, moi, je pouvais pas assumer un grand appartement tout seul à Lyon. Donc, j'ai été obligé d'en prendre très rapidement quelqu'un. Donc, je l'ai même pas choisi, entre guillemets. Hein. Bon, là, c'était le jour et la nuit, quoi. C'est-à-dire que là, je suis tombé sur un gars qui aime personne. À mon avis, il aime toujours personne. il sortait jamais de chez lui.
On ne sortait jamais.
Ouais.
Du coup, moi, comme je sortais beaucoup, je suis encore plus sorti, parce que comme ça, je le voyais moins. Mais
vous avez arrêté les fêtes chez vous, quoi?
Il n'y avait plus de fêtes, parce qu'avec lui, c'est pas possible. Ou alors, ça aurait viré au drame, quoi. C'est-à-dire qu'il avait sa chambre d'un côté de l'appartement, il y avait presque 100 mètres carrés, mais moins d'un côté de lui et de l'autre. Bon, dès qu'il y avait du monde à la maison, il s'enfermait, il n'allait pas sortir.
Quel enfer.
Ça, c'est l'enfer. Après, c'est pas le pire, parce qu'après, par là-dessus, il y a sa compagne qui est arrivée à un moment.
Ça l'a détendu, non?
Ils vont bien ensemble, ces deux-là, il n'y a pas de souci. Hein. C'est-à-dire qu'elle vivait en Suisse, de temps en temps, elle venait sur Lyon, donc. Et quand elle venait, elle passait à la maison. Bon, c'est pareil. Je pense que, je ne sais pas, à mon avis, elle était sous l'exomile depuis la naissance. C'est autrement, quoi. Elle marchait à deux à l'heure, on aurait dit une petite vieille. Moi, le matin, je suis chez moi, quoi, merde. Donc, je me lève, je me mets en chambre sur mon canapé. Et puis là, vous avez une personne que vous connaissez pas au final, quoi.
Ben oui.
Qui s'assoit à côté de vous, qui vous regarde comme si vous étiez un extraterrestre parce que vous êtes déjà au téléphone à 7h du mat avec vos potes. Enfin bon, c'est l'enfer, quoi.
Ouais.
C'est l'enfer.
Il y a une merveilleux et le moins bien, quoi.
Il y a une merveilleux et le moins bien. Et puis je vous passe aussi évidemment les moments intimes, quoi. C'est-à-dire que quand vous êtes avec votre meilleur ami, bon, ça passe. En plus, moi, je suis hétéro, lui, il était homo, donc bon, c'était plutôt rigolo. Chez nous, je vous dis, c'était vraiment de la grosse fête tout le temps. Mais après, c'était plus compliqué. Quand j'étais avec ma petite amie, combien de fois, il vous tape à la porte, vous faites du bruit. Voilà, donc très gênant. On parle même pas de la musique qu'il fallait jamais mettre. Enfin bon, c'était une catastrophe, mais l'un dans l'autre, pour moi, c'était quand même de super années.
J'ai envie de retenir votre premier exemple. Vous voyez, Frédéric, qui était vraiment très sympa. Le deuxième, nous a un peu plombé, quoi. On est parti sur l'auberge espagnole et on se retrouve sur un truc terrible.
Mon expérience a duré que 6 mois parce que j'ai
Ça va.
Et puis après, j'ai rencontré ma future femme et du coup, je me suis cassé.
Du coup, vous avez vécu en colocation, mais c'était autre chose.
C'est moi qui étais titulaire du bac, donc j'ai tout arrêté. Et voilà. Mais par contre, avec mon meilleur ami, qui est toujours mon meilleur ami, c'était juste exceptionnel.
C'est incroyable.
Je vais vous donner un exemple très rigolo. J'avais d'autres amis qui étaient en coloc très rapidement. C'était en coloc à trois.
Ouais.
Je vous laisse imaginer le nombre de gens qui passaient dans cet appartement quand on a 20 ans dans Lyon. Et eux, ils avaient un rituel, c'était de prendre en photo tous les nouveaux arrivants qui rentraient dans cet appartement en Polaroid. Le Polaroid était mis derrière la porte.
J'ai une copine qui a fait ça.
C'est trop bien, tu faisais ça.
Le Polaroid était mis derrière la porte d'entrée. Et c'est vous, ça. Quand vous arriviez pour la première fois, donc vous laissiez prendre photo. Le Polaroid sur la table et vous mettiez la date et votre prénom. Et comme ça, la première fois, bah, du coup, appelle-lui, je le connais, il est déjà passé chez toi. Bah oui, c'est mon pote, machin. Ça, c'est ça. Des interconnexions et j'ai jamais autant d'amis qu'à l'époque, quoi.
Bah oui. Et bah, génial. Merci beaucoup, Frédéric, d'avoir été avec nous, notre invité sur ce débat. Bah, c'est Maëlle Bernier, elle est porte-parole de meilleurtaux.com. Et pourquoi on a invité Maëlle Bernier, qu'on adore par ailleurs? Eh bien, c'est que les gens, finalement, cohabitent, font de la colocation, bah, parce que les prix de l'immobilier sont trop chers. Bonjour Maëlle Bernier.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Maëlle Bernier, c'est une tendance, le fait de vivre en colocation?
Oui, enfin, ça fait quand même quelques années. Alors,
oui, non, mais
la différence, c'est que maintenant, effectivement, on voit des colocations avec des âges différents. On voit aussi, alors c'est vrai dans les grandes villes quand même, parce qu'il y a effectivement le prix de l'immobilier. Par exemple, il y a des colocations qui peuvent s'installer entre deux papas qui ont des enfants et qui viennent de se séparer, ou deux mamans, pareil, et qui donc sont copines ou pas, mais se retrouvent du coup avec un appartement plus grand ou une maison un peu plus grande. Et ça, c'est pas idiot, c'est pas de la contrainte. C'est plus, finalement, on a un peu la même vie, on est toutes les deux, on vient de se séparer, on est toutes seules, ben on sera aussi bien toutes les deux pour les enfants et tout ça. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc, effectivement, ça peut être une contrainte au départ. On peut se dire, bah oui, ben c'est parce que les prix de l'immobilier sont trop chers, mais je pense qu'honnêtement, il y a vraiment des choix. C'est qu'il y a vraiment des gens où, avec pas d'envie, ils disent, j'ai vraiment pas envie de m'en retrouver tout seul ou toute seule avec mes enfants ou sans enfants. Et ben, franchement, je me mets avec une coloc, une amie ou quelqu'un que voilà. Et on partage les charges parce que, ben, évidemment, il y a quand même aussi l'inflation.
Mais oui.
Donc, l'EDF, le compagnie, enfin, tout ça, ça augmente. Et ça augmente pas en proportion. Hein. C'est 3-2-1 dans un appart, c'est le même prix quand même que si vous étiez deux. Hein. Donc, on partage. Mais, je suis assez d'accord avec ce qui était dit tout à l'heure. Alors, j'ai pas noté le nom de votre chroniqueuse, mais il y a aussi un côté très sympa. Il y a un lien qui se crée. Et franchement, tout le monde n'est pas planqué derrière son ordi. Ça permet de rencontrer des amis d'amis, de d'ouvrir un peu ses chakras. Donc c'est
et d'éviter la dépression.
Bah, complètement. D'être seule, exactement. Et puis, puis quand vous êtes le dimanche soir de novembre, toute seule dans votre face à votre télé, alors c'est évidemment le cas le pire, mais franchement, vous êtes contente d'avoir quelqu'un avec qui discuter et vous faire une bonne bouffe.
Donc ça sent le vécu, hein.
J'ai été coloc étudiante et donc je me suis tout à fait retrouvée dans ce qui a été dit précédemment. C'est-à-dire qu'effectivement, des fêtes à Paris, on avait 50 mètres carrés, on faisait des fêtes à 50 dans 50 mètres carrés, ça paraît
incroyable.
Et effectivement, tout le monde s'en donne à cœur joie, c'est des belles années. Mais ce qui est vrai, c'est que je pense qu'en plus, aujourd'hui, les gens qui ont 35, 40, 45 ans, ils ont aussi envie de faire la fête, ils ont aussi envie de faire des soirées. Et ces nouvelles colocs, ça permet de vivre ça avec des budgets qui sont effectivement plus restreints. Et
puis on peut avoir une vraie salle de bain, enfin, je veux dire, pas juste un évier dans une chambre de bonne. Donc,
ça aussi, ça sent le vécu.
Bah oui, je l'ai vécu, c'est pour ça. Et les toilettes sur le palier, je l'ai vécu.
Ouais.
Et effectivement, ça permet d'avoir un appart plus grand. Et d'ailleurs, il y a un vrai marché pour ça parce qu'on voit de plus en plus de grandes maisons qui sont rachetées effectivement pour faire du co-living, comme disait Élise. Et ça, c'est apparemment très prisé.
Exactement, parce que alors en plus il y a cette notion de c'est un peu ordonné quand même. Vous avez votre petit coin chez vous, puis vous partagez votre espace cuisine quand vous en avez envie, parce que vous n'êtes pas obligé. Il y a pas vraiment d'obligation, alors que dans une colocation, c'est vrai on peut se dire il y a un peu une obligation quand même d'être sympa un peu tous les jours.
Oui.
On voit si quelqu'un qui se met à faire la tête, comme vous décrivez précédemment, au bout d'un moment ça gonfle. Donc il y a ce côté un peu co-living, c'est un peu organisé. Il y a des gens qui viennent un peu de partout. Moi j'aime beaucoup l'idée de des personnes, des seniors qui sont un peu seuls avec des étudiants, parce que je pense qu'il y a vachement à échanger entre les deux, entre les plus âgés qui ont des trucs à faire partager et les jeunes qui arrivent aussi, souvent ils connaissent la technique, ils maîtrisent Internet, il y a Netflix, tout ça. Enfin, tout peut se passer très bien. Il y a des trucs positifs, alors je suis un peu bizarre peut-être aujourd'hui, mais je trouve qu'il y a des trucs un peu positifs qui se passent grâce à ces phénomènes-là. Même si, au départ, ça peut partir d'une contrainte financière, mais pas toujours, hein.
Non, mais exactement, ça peut être juste parce qu'on a aussi envie de pas se retrouver seul. C'est pas facile, encore une fois, de se retrouver seul à 18 ans dans un tout petit appart et loin de ses parents. Voilà, il y a beaucoup d'étudiants qui font leurs études dans des grandes villes un peu loin, et c'est sûr que c'est aussi plus sécurisant de se retrouver à plusieurs. Oui, Perico.
Une anecdote, je connais une famille.
Encore?
Oui, non, mais c'est
une anecdote.
C'est une famille où le fils aîné est homosexuel, donc il vit avec un garçon.
Oui.
Et même au bout de 25 ans, les parents présentent le colocataire de voilà.
Ah bah ça, voilà, il y en a plein.
Voilà, et c'était le colocataire.
Il y en a plein qui font croire que c'est colocataire. C'est un peu vieille France, quand même.
Oui, d'accord, mais on présentait 20 ans après, et le colocataire qui venait avec son colocataire. C'est extraordinaire.
C'est voilà. Drôle, ça. Ah oui, ouais,
moi, j'ai ma meilleure amie, sa grand-mère vivait en coloc avec sa meilleure amie. Et en fait, à la mort de sa grand-mère, on s'est rendu compte qu'en fait, elles étaient ensemble, les deux, depuis 40 ans, quoi.
Alors qu'elles disaient qu'elles étaient coloc.
Ouais, elles disaient qu'elles étaient coloc. Alors qu'elles étaient
alertées, quand même.
Elles étaient folles amoureuses.
Ben oui, au bout de 40 ans, quand même, il y a un moment où.
La colocation peut être une couverture formidable.
Ouais. Nicolas est avec nous, il nous appelle d'Argenteuil, dans le Val d'Oise. Bonjour Nicolas.
Bonjour à tous.
Nicolas, vous avez quel âge ?
Pas que d'Argenteuil.
Et vous êtes en colocation ?
C'est ça, tout à fait, depuis 2 ans.
D'accord. Et pourquoi ce choix, Nicolas ? Parce que vous travaillez, vous êtes employé de banque ?
C'est ça, je travaille, je gagne plus bien ma vie. Sauf que pour trouver un appartement en région parisienne, c'est pas forcément évident.
Ouais.
Puis y a des choix à faire. Soit aller dans le privé et perdre un petit peu en termes de reste à vivre, de pouvoir d'achat, parce que les loyers sont, pour une personne seule qui veut, disons, un 2 pièces, les loyers atteignent assez facilement les 800, 1000 euros.
Et ah ouais,
donc,
quand même.
Ça en plus, ça calme. Une partie du budget. Effectivement, ça calme. Ou sinon, passer, aller dans le social ou dans l'intermédiaire. Et là, ce sont des relations, même pas l'administratif, c'est une première chose. Et puis, une fois qu'on a déposé son dossier, ça met du temps. Il y a des personnes qui passent en priorité.
C'est ça. Il y a beaucoup d'attentes. Mais alors là, pour l'instant, vous êtes en coloc. Ça se passe comment, Nicolas ?
Ça se passe, je dirais, moyennement bien.
Je l'ai entendu là.
Moyennement bien, dans le sens où il n'y a pas de conflit entre les colocataires, mais il n'y a pas non plus de réel contact ou de communication. Il y a des petits problèmes, comme j'ai pu l'entendre sur les précédents intervenants.
Mais vous êtes combien dans l'appart ?
On est 4.
Ah ouais, 4, ça fait beaucoup quand même en coloc. Et 4 inconnus, c'est-à-dire que vous ne connaissiez aucun des 4.
4 inconnus avec une rotation, puisque en fonction de s'il y a des étudiants, s'il y a des personnes qui déménagent. Donc moi, en 2 ans, j'ai vu quand même une petite rotation. Et effectivement, à chaque fois, c'est la surprise, puisque c'est le propriétaire qui choisit, même si on peut le dire tout un mot, c'est lui qui choisit la personne. Si au bout de 2 mois, pendant 2 mois, il a eu personne, forcément, la première personne qui va se proposer, il va la prendre.
C'est
et puis ensuite, ça peut être la mauvaise surprise. Les gens se comportent bien au début, et puis après, ils nettoient plus la cuisine, ils nettoient plus la salle de bain. Et puis, soit on passe derrière eux, soit on est têtu. Et on regarde les choses se dégrader, voir quand est-ce qu'ils vont réagir.
Et ils réagissent pas.
Et ils réagissent pas. Donc, quoi qu'il arrive, on finit par passer derrière eux. Donc, voilà.
Oui, ce qui est dur, en fait, c'est ça. C'est la salle de bain et la cuisine, en fait.
Bah, les parties communes, partout il y a de l'eau, où ça s'encrasse. Et puis voilà. Et puis, on se demande comment les gens réfléchissent, comment tu peux pas voir que l'évier est bouché, comment tu peux pas voir que la salle de bain est sale, que la baignoire est sale, tu vois pas la différence entre le blanc et le marron, t'es pas capable de nettoyer les toilettes, voilà, des choses qui sautent aux yeux et on comprend pas comment les gens pensent, où est-ce qu'ils pensent qu'on est à leur service. Au bout d'un moment, on pense même qu'ils nous respectent pas parce que c'est comme ça qu'on prend.
Mais c'est sûr qu'on
vit avec des femmes, c'est pas forcément évident pour elle, donc
non, mais c'est sûr que voilà, on n'a pas tous la même notion de la propreté et du travail bien fait, on va dire, et ça pose problème, tout comme les étagères dans le frigo, tu sais.
Ça s'appelle la promiscuité.
Ben oui.
Voilà. Et la promiscuité a ses limites.
Il y a beaucoup de gens qui considèrent aussi qu'une chose est bien faite quand elle est faite par quelqu'un d'autre.
Voilà. Oui, c'est vrai. Mais c'est un problème en colocation.
En colocation.
Voilà, exactement. Merci en tout cas, Nicolas, d'avoir été avec nous. Puis on espère que vous trouverez bientôt un appartement pour échapper à cette colocation. Je vois farfouiller dans l'application RMC Rémi.
Oui, avec pas mal de témoignages. Matt qui nous dit j'ai fait toutes mes études en colocation, 2, 3 ou 4 personnes avec mes camarades de classe, les meilleures années de ma vie, bourré d'anecdotes, et voilà, pour moi la colocation c'était vraiment une très 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 bonne expérience, une très belle aventure.
Allez, on va terminer avec le témoignage d'Erwan qui nous appelle de Noyers-Saint-Martin dans l'Oise. Bonjour Erwan.
Bonjour à tous.
Et bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous Erwan. Oui. Vous, ça fait 3 ans que vous êtes en coloc, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et comment ça se passe?
Ça se passe très bien.
Ah bah écoutez, super, c'est avec des inconnus ou des copains?
Non, inconnus. Inconnus. Et l'année dernière, j'étais du côté de Chambly, on était 11.
11?
Ouais.
Mais c'est énorme, c'est un château.
Non, même pas. On n'avait pas de terrain, pas de jardin, mais on avait 11 chambres.
Et ça se passait comment à 11? C'est un hôtel, quoi.
C'est génial.
Ouais, c'était un peu un hôtel, mais on avait 3 Airbnb par semaine. Ils repartaient le week-end et le reste, c'était des résidents à l'année.
D'accord.
Non, franchement, c'était pas mal. Il y avait pas mal de profils différents. Et...
Parce que 11, pour bien s'entendre, c'est quand même compliqué.
Ouais.
Ouais, il y en a, ils s'entendaient pas, mais Après, c'est comme ça.
On les entendait.
Ah oui, d'accord. Ouais, vous êtes assez fataliste, quoi. Et là, ça se passe bien à 3.
Ouais, on est 4.
À 4. Et la colocation, c'est par plaisir ou c'est pour gagner de l'argent, en fait, enfin, en tout cas pour ne pas, pour moins en perdre?
Moi, au début, c'était par obligation.
D'accord.
Et là, quand j'ai déménagé cette année, bah, je suis retourné en colocation par rapport au prix des loyers. Mmh. Et vu que ça s'était bien passé pendant 2 ans, autant continuer comme ça.
Ouais, donc c'est aussi une question de prix. Évidemment, ça coûte moins cher, évidemment, de prendre un appart à deux que de le prendre tout seul. Merci Erwan et merci également à Maëlle Bernier d'avoir été notre invité sur ce débat porte-parole de meilleurtaux.com et qu'on retrouvera certainement très bientôt dans Estelle Midi. Rémi, on va terminer avec le résultat de notre sondage sur le compte Twitter d'Estelle Midi.
Vivre en colocation, bonheur ou calvaire?
On a eu plein de jolis témoignages.
Calvaire pour 85%.
Oh non, mais 85%
sur les réseaux sociaux, ouais.
Non, mais attendez, les gens qui écoutent là, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Mais non, mais c'est que les gens qui appellent, c'est
des... Les gens qui n'ont jamais vécu en fait.
Les gens malheureux. Ah oui, les gens qui sont heureux, ils n'ont pas appelé pour.
RMC, midi 15h, Estelle Midi. Tous les week-ends, de midi à 13h, c'est les Paris RMC. Conseils, pronostics, meilleures cotes, préparez vos paris sportifs du week-end avec la Dream Team Sport RMC. Les Paris RMC, le rendez-vous des parieurs, tous les samedis et dimanches, midi 13h, avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Mardi, au Golf Park Robert Hersan, c'est le Tea Break avec RMC. Une journée caritative historique avec la présence de médaillés olympiques. Au programme, une compétition amicale de golf, des enchères caritatives d'objets de sport mythiques et une voiture à gagner avec un trou en un. Le Tea Break, mardi, avec RMC.
7h. Oh. 7h02. Oh. 7h03.
Bonjour, la météo.
Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, toutes les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player.